Salut à tous et bienvenue dans Tech Café, vous écoutez le 105e épisode que nous enregistrons le 6 novembre 2018. Ce qui est bien avec les annonces Apple, c'est de les prendre avec un peu de recul. Nous avons essayé de les analyser de manière critique juste après la keynote, mais nous allons aussi revenir sur Apple avec un peu d'analyse complémentaire, notamment sur le plan financier. S'en suivra une chronique électrique avec comme fer de lance les derniers propos d'Elon Musk. Et puis pub Facebook, harcèlement sexuel, Cloud Act, liberté et initiative de Chine, ce sera la sélection de la semaine de Guillaume Poggiaspala avec la section déprime. Nous ne manquerons pas non plus la partie en bref et les bonus. Je suis Guillaume Vendée et je retrouve donc avec plaisir Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ?
Eh bien écoute, ça va très bien.
Dans tous les épisodes de Tech Café, on a commencé à voir une chronique récurrente de liens que tu sélectionnes et il faut qu'on trouve un nom à cette rubrique, je sais pas comment on va l'appeler. J'aimais beaucoup le caractère dystopique, mais il faut reconnaître que tout ce que tu sélectionnes n'est pas toutes les semaines de nature à être dystopique. Le point commun que tu as identifié à ce stade, c'est que c'est déprimant.
Exactement. Donc, pour l'instant, va-t-on l'appeler déprimé avec Guillaume P.
Voilà, on va voir si ça va vous faire déprimer. Le but, bien entendu, c'est quand même de vous faire sourire de manière générale, mais surtout de vous tenir au courant de toute l'actu tech de la semaine. On vous rappelle les incontournables, vous pouvez soutenir Tech Café avec une participation financière avec de toutes petites sommes qui sont déclenchées, qui vous sont prélevées pour chaque épisode, et vous vous rendez pour en savoir plus sur Patreon. L'adresse exacte, c'est patreon.com/techcafé. Vous avez le lien dans les notes de l'émission. Deuxième lien que vous avez en tête des notes de l'émission, c'est l'endroit incontournable pour réagir à l'émission et aux différents propos qu'on va tenir, c'est sur techcafé.fr. D'ailleurs, j'en profite pour dire que régulièrement, j'ai des retours par Twitter, j'ai des retours sur plein de canaux différents, mais je vous invite plus que jamais à le faire sur techcafé.fr. La raison pour laquelle je vous y incite, c'est que les autres auditeurs peuvent également voir les remarques et ça peut faire un espèce de référentiel des remarques qui peuvent être faites sur les épisodes. Et de manière assez incontournable, vous pouvez désormais, vous le savez, discuter entre vous et avec nous sur Telegram. Là aussi, le lien figure dans les notes de l'émission. Sans autre forme de procès, on va donc commencer à reparler d'Apple, mais on va comparer des pommes avec des pommes. Enfin, on va remettre en gros les différentes perspectives et les analyses dans leur contexte. On a une première analyse, un premier élément qu'on a vu remonter dans les veilles, qu'il a fallu remettre en perspective, et c'est toi qui l'as fait, Guillaume Poggiaspala, sur la base des petites infos que j'avais pu moi relever à mon niveau, qui montre que j'avais extrapolé de manière très hâtive l'information à l'ensemble des smartphones, mais l'info qu'il faut retenir, c'est que les Américains conservent leur iPhone désormais plus longtemps qu'auparavant. Je crois qu'auparavant, ils avaient tendance à les conserver 2,2 années. Désormais, ils les conservent 2,9 années. Ça voudrait dire que les iPhones sont plus durables, mais c'est pas forcément la seule conclusion qu'on peut en avoir, Guillaume.
Non, d'ailleurs, les ventes d'iPhone plafonnent. Donc, Apple n'en a pas vendu cette année plus que l'année dernière. Et c'est effectivement, ça coïncide avec un taux de renouvellement en baisse. C'est le Wall Street Journal qui rapporte donc la durée moyenne d'utilisation qui, comme tu dis, maintenant est proche des 3 ans. Alors que c'était, il y a 2 ans, c'était 2,39 je crois, et avant c'était encore un peu moins. Et bon, la première et principale raison, ce serait la hausse des prix, hein, tout simplement. Et la seconde, ce serait aussi des offres beaucoup moins fréquentes et généreuses des fournisseurs d'accès, quoi, parce que les abonnements téléphoniques étant désormais le plus souvent séparés de l'achat des appareils, ben, les gens souscrivent moins à des super plans comme un nouvel iPhone X si tu t'abonnes sur 5 ans à 50 euros par mois, tu vois, là, tu vois le genre, on a tous connu ça. Alors, il faut quand même voir que les chiffres ne comprennent pas ceux des iPhones, donc les ventes des iPhone XR, qui pourraient faire une différence, puisque bah, justement, c'est les moins chers. Donc, ce sont des chiffres qui sont un petit peu incomplets, mais ils donnent quand même une bonne idée de la situation, hein. Alors, le prix de vente moyen d'un iPhone, c'est passé à $793 cette année, contre $724 l'an dernier. Et Apple confirme un chiffre d'affaires de 62,9 milliards pour la division smartphone, sa quatrième trimestre. C'est quand même une hausse de 39% par rapport à l'an dernier, à la même période. Et c'est donc en fait la hausse générale des prix à travers toute la gamme, ordinateur compris, hein, semble confirmer qu'Apple compte plus sur une hausse des prix plus que sur une hausse du volume pour assurer sa croissance. D'ailleurs, il communiquera carrément plus le nombre de ventes pour ses iPhone, Mac et iPad à partir du prochain trimestre. Apple n'a jamais été très très précis dans ses informations, hein. Je crois qu'on n'a jamais su, par exemple, que c'est comme il avait vendu d'Apple Watch
Non, on ne sait pas.
ou de Mac Mini. Enfin, je ne sais plus, mais il y a vraiment des trucs qui ne sont pas très très précis. Mais bon, on avait quand même une bonne idée du nombre d'iPhone déjà. Et là, c'est une décision qui semble complètement cohérente, hein, puisque une croissance faible ou nulle des ventes, bah, ça pourrait refroidir les investisseurs, alors même que le chiffre d'affaires continue de croître. Et d'ailleurs, d'après Maestri, le chef de la division financière, le nombre de ventes n'est plus représentatif de la bonne santé des affaires. Donc je suppose qu'il ne faut pas non plus trop espérer une version grand public des iPhones ou des MacBooks, hein. Les iPhones SE ont vécu, apparemment. C'est peut-être un peu triste.
C'est pas, je crois qu'une des lisibilités qu'on pourrait avoir à chaud là de cette news, c'est de se dire c'est des petits filous, en gros ils nous entourloupent. Je crois que ce qu'il faut garder, moi la lecture que j'en ai, c'est déjà qu'ils se mettent aussi un peu à niveau parce que sauf erreur, et là je suis tout à fait ouvert à vos remarques et à vos analyses fines de ce genre de choses, mais j'ai l'impression que Apple faisait un petit peu figure d'exception en communiquant sur des volumes relativement précis de vente d'iPhone. Et je ne suis pas certain que les concurrents le faisaient de manière aussi détaillée. Alors encore une fois, il faut comparer les sociétés quand on peut vraiment les comparer. Et juste un élément que tu donnes, donc la hausse du prix moyen de l'iPhone qui passe de 724 à 794, je crois, ou 792, je ne sais plus exactement, près de 800. Moi, je trouve que c'est très intéressant parce que c'est là où on peut très concrètement dire... Les iPhones sont plus chers, c'est-à-dire qu'on peut le mettre en perspective d'usage, on peut le mettre en perspective de une maturité, on peut le mettre en perspective de ce qu'on peut faire et de la puissance brute, mais il n'empêche que ce prix moyen, bah, c'est quand même une donnée qui est à prendre en tant que telle. Et tu disais que cette hausse était directement imputable à la hausse du prix des iPhones et en gros le prix qui est de plus en plus haut et puis le panier moyen qui est en hausse. Et je crois que c'est bah, une stratégie effectivement très payante pour Apple qui a compris qu'il y avait tout à gagner à faire des produits plus durables en termes de satisfaction. Et de manière générale, c'est pas que Apple, c'est aussi toute l'industrie du smartphone qui est, je pense, en train de faire des smartphones plus durables, en tout cas ceux qui sont pas dans le bas de gamme. Et donc, effectivement, le relais de croissance le plus évident, c'est de monter en gamme, c'est de proposer une expérience premium qui soit encore plus importante et qui justifie, en tout cas aux yeux de certains, la hausse des prix. Alors justement, hausse des fonctionnalités et montée en gamme un peu des appareils, parce que on commence à anticiper un petit peu ce qui va arriver derrière, quelques petits mots peut-être sur Face ID et puis sur ce qui va remplacer la 4G, Guillaume.
Bah écoute, oui, il y a Ming Chi Kuo, alias Madame Irma, qui a peut-être lu ça dans la compote de pommes, je sais pas, qui via MacRumors s'exprime sur le futur de la marque, hein, et il annonce un nouveau Face ID avec un nouveau capteur plus précis et surtout moins perturbé par la lumière ambiante. Tout ça pour 2019, parce que c'est vrai que Face ID, donc c'est un système qui map ta tête en trois dimensions, et pour ça, elle utilise un petit projecteur, un petit projecteur qui est infrarouge. Et elle regarde les déformations d'une trame. On avait expliqué ça, je crois, dans un
Oui,
autre épisode.
tout à fait.
Et là, le but, ce serait de passer carrément à une caméra time of flight, c'est-à-dire, grosso modo, on envoie des photons et quand on reçoit les photons, au retour, on mesure exactement quelle distance ils ont parcouru en fonction du temps qu'ils ont mis pour revenir. C'est ce qui est utilisé, je crois, dans le Kinect 2, enfin, Kinect 2, qui n'existe plus vraiment, puisque c'est vrai que Microsoft a un petit peu foutu ça dans le placard, mais bon, bah, c'est un petit peu ce genre de technologie, donc c'est un petit peu plus précis. Et surtout, c'est vrai que bah, c'est moins perturbé par les lumières ambiantes. Apparemment, Face ID a un petit peu de mal. Il marche très bien dans le noir, mais parfois, il a un petit peu de mal dans certaines conditions. Donc, ce serait sans doute une très bonne idée. Et quant aux iPhones 5G, oui, vas-y, pardon.
Face ID, juste un petit mot sur Face ID. Moi, je reste un fervent défenseur de Face ID par rapport à Touch ID, où moi, je ne ressens pas de frustration à avoir abandonné Touch ID. Je sais que c'est le cas de beaucoup de monde. Enfin, c'est le cas de plusieurs personnes. Ne tirons pas des conclusions sur des volumes. Il y a quand même effectivement deux cas où ça marche moins bien. C'est effectivement quand tu te retrouves exposé à une forte luminosité directe, donc style en plein été, quand tu te retrouves en plein soleil et que ton iPhone est mal orienté, c'est relou, c'est vrai que ça marche pas bien. Et la deuxième chose, c'est pour des personnes myopes comme moi qui se réveillent le matin en n'ayant pas mis leurs lunettes ou leurs lentilles de contact et qui essayent de déverrouler leur iPhone. Tu sais, il faut imaginer le schtroumpf à lunettes sans lunettes, tu sais, tel qu'il est dessiné. Ben, moi, c'est pareil le matin. Je mets mon iPhone très près de moi. parce que ça me permet de le voir net, et bah, il se déverrouille pas et j'ai l'air tout gogol comme ça. Et effectivement, Face ID gagnera aussi, je pense, et je sais que je suis pas le seul, hein, et Face ID gagnera énormément aussi, et ses technologies, quand on pourra les déverrouiller en ayant le visage beaucoup plus près du smartphone que ce n'est le cas aujourd'hui, mais je pense que ça demandera encore pas mal d'évolution. Tu voulais parler de la 5G?
Oui, les iPhones 5G, ils vont arriver, mais d'après Fast Company, il faudra attendre 2020 quand même pour les avoir en boutique, parce que apparemment la puce 8060 d'Intel chauffe trop. Donc elle est disponible, hein. Intel a déjà une puce 5G, mais elle chauffe trop, et donc elle consomme trop, et Apple n'est pas content. Donc il doit attendre plutôt le 8061 l'année suivante, et donc évidemment Apple n'est pas content d'Intel, mais étant donné qu'on connaît très bien ses rapports actuels avec Qualcomm, ben forcément, on se dit qu'ils doivent attendre un grommelant pour leurs iPhone 12 ou 11S, je sais pas, les iPhones. Donc XII ou XIS, je sais pas exactement, on verra, mais...
J'ai l'impression que c'était une excellente idée de nommage, hein, les iPhone 10 avec un X comme ça. Mais effectivement, le nommage pour la suite, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, ça risque d'être assez ridicule. D'ailleurs, juste au passage, la 5G en France, juste pour ce qui nous intéresse, moi j'ai plus en tête les dates, mais c'est pas 2020, hein, c'est bien après.
Alors, pour l'instant, il n'y a que Verizon aux États-Unis, je crois, qui va proposer la 5G dès 2019, et donc avec des téléphones compatibles. Mmh. Et en Europe, effectivement, je pense qu'on aura des expérimentations en 2019 et en 2020, mais je ne pense pas que le réseau sera vraiment accessible à tout le monde en 2020, pas encore.
Oui, bien sûr. Alors, peut-être que le côté sexy de l'avenir des smartphones passera par les smartphones pliables. C'est une arlésienne, on en parle dans plusieurs depuis plusieurs épisodes de Tech Café maintenant. On sait qu'il y a le projet du Samsung Galaxy X ou 10, justement, je ne sais pas comment on doit le nommer, mais qui est grosso modo censé être un smartphone pliant. D'ailleurs, il y a des rumeurs qui disent qu'il pourrait être annoncé cette semaine. Alors, on sera peut-être amené dès la semaine prochaine à pouvoir parler de prévisions d'annonces de ce type de produit. En tout cas, ce ne sera pas le premier, puisqu'il y a eu un premier smartphone pliant qui a été officiellement présenté. Je souris parce que c'est vraiment tout ce qu'on ne voulait pas voir dans l'annonce d'un smartphone pliant. C'est-à-dire qu'ils nous ont présenté un produit, donc c'est le FlexPi, qui propose tout simplement d'avoir une espèce de petite tablette qu'on peut replier sur elle-même. Et donc, on a un écran courbé. Donc, technologiquement, c'est très intéressant. Mais le cas d'usage paraît tellement improbable qu'il achève de me convaincre sur les craintes que je pouvais avoir en me disant « Mais à quoi diable va servir un smartphone pliant, Guillaume ?»
Alors, c'est vrai que Léo nous avait dit de parler de trucs flexibles que quand tu serais sorti. Bon, bah, c'est arrivé. Voilà.
Alors, on va commencer, du coup.
Et maintenant que je vois le FlexPi, je me dis que l'iPhone XII, tout le monde va s'en foutre, hein, parce que, je veux dire, en 2020, tout le monde aura un truc comme ça, c'est obligatoire. Bon, le FlexPi, c'est un truc qui a été fait par Royal, je sais pas exactement comment on prononce ce truc-là. En tout cas, ça pourra s'enorgueillir d'avoir sorti le premier appareil électronique presque grand public, avec écran pliable, hein, c'est un smartphone sous Android 9. Il fait presque 8 pouces quand il est déplié, et il est en format 4 tiers. Il a 6 Go de RAM, il est aussi équipé d'un Snapdragon 8150, qui, comme son nom l'indique absolument pas, est le successeur du 845. D'ailleurs, on peut en profiter pour toucher deux mots du 8150. Hein, c'est une future puce, en fait, qui n'a même pas encore été officialisée par Qualcomm, qui tourne en 7 nanomètres, selon les benchmarks qui sont quand même très préliminaires, hein, sur des trucs de référence. Elle serait dans les bons 25% plus rapide que le 845, donc c'est bien, puisque c'est compétitif avec le Kirin 980, hein, celui du Huawei Mate 20 Pro. Mais c'est quand même un petit peu en dessous du Note 9, et c'est surtout largement en dessous du A12X de l'iPhone XS, ou XS Max. C'est une machine de référence, donc les résultats pourraient un petit peu différer sur des machines commercialisées. Mais bon, voilà, donc revenons à notre plat paille flexible. Hein. Donc c'est quand même un truc qui pèse 320 grammes, soit le double d'un téléphone moyen, et qui est proposé à 1139 €, hein, et c'est vrai que c'est quand même très cher. Évidemment, c'est épais, puisque le truc fait 7,8 mm, mais quand il est replié, il fait le double. Et il y a des bords qui sont assez présents.
On est au moins très loin le double.
Au moins le double,
parce qu'il y a la partie charnière qui est un peu bombée, quoi. Enfin...
Oui, voilà, mais c'est exactement ça. C'est vrai que pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on s'attend à un carton planétaire. Hein. Le produit semble un tout petit peu rushé sur les bords. Il y a un espace, comme tu dis, qui est assez important entre les deux moitiés à la pliure, par exemple. C'est pas du tout, ça se remplit plat, tu vois, on a l'impression qu'on peut mettre le doigt, quoi. Et le petit doigt. Et ça ressemble quand même pas mal à des protos, tu vois, aux protos qu'on voit sur les salons. Mobilité, là, c'est vraiment typiquement ce genre de truc. Donc, bah, moi, j'attends quand même de voir les premiers tests, hein, parce que faut quand même, pour l'instant, il n'y a eu que des vidéos, des trucs comme ça, mais bon, même si c'est pas le FlexPay en particulier, moi, je trouve que les usages généraux du double écran, alors à l'inverse de toi, peut-être, hein, qui sont montrés dans la vidéo de promo, dans la note de l'émission, j'ai mis un petit lien, il y a la vidéo de promo aussi, moi, ça me parle toujours bien, en fait, et je suis plutôt toujours hypé par les futures itérations des téléphones pliants. Voilà, vous verrez sur la vidéo, hein, c'est des trucs assez bêtes, hein, mais effectivement, on déplie le téléphone, on a deux fois la surface, on a vraiment une tablette qui est bah, utilisable et c'est plutôt cool. Bon, oui, l'implémentation du FlexPay n'est pas forcément la plus idéale, mais moi je pense que au contraire, peut-être de toi, je sais pas, ça me parle en général, quoi.
Bah écoute, enfin moi ce que je trouve bien, c'est effectivement qu'on puisse me poser la question. En tout cas, c'est très cool. Aujourd'hui, je suis pas convaincu. Maintenant, on verra. Bah, je changerai peut-être d'avis quand demain on nous aura bien implémenté ce type de fonctionnalité. Il y a quand même un truc, il faut le reconnaître, hein. Quand on voit l'écran se plier dans les vidéos, et si c'est vraiment comme ça que ça marche, ça reste quand même assez bluffant et ça reste relativement futuriste. Pour moi, les usages sont pas là, mais c'est quand même assez impressionnant. Il y a quand même beaucoup de questions dans les conditions réelles qui vont se poser, je pense, et on a hâte, effectivement, comme tu dis, de voir les tests. Du coup, est-ce que tu voulais toucher un petit mot des processeurs
Non, ben non, mais c'est
on
bon,
a,
c'est
on
bon.
a fait le tour,
Ouais,
hein,
c'est
du
bon,
coup,
on a fait
avec
le tour, ouais.
les news du FlexPay?
On n'a pas encore assez d'infos sur les 1150, en fait,
Donc,
pour l'instant.
on va enchaîner par contre avec toujours ce CCE, hein, le Comité contre les encoches, qui veille au grain et qui surveille un petit peu toutes les news qui peuvent arriver et qui a porté son regard cette semaine sur le ZTE, sur les nouveaux produits de ZTE, le Nubia 10 ou X, qui
On
fait
n'en
un
peut
nouveau
plus, hein, ces
pari.
trucs en X,
C'est
j'en ai marre,
terrible.
moi, j'en ai marre.
Il n'y a pas un CCX, un comité. Non, enfin, il va falloir trouver
Le
les
comité contre le
raccourcis.
X? Ah non, moi j'en
Voilà,
fais pas partie, hein.
un comité contre le X dans les noms de smartphones. Je vous laisse faire l'abréviation de votre côté. Le Nubia 10, donc, qui est un smartphone avec un double affichage. Et c'est finalement peut-être assez malin, moi je trouve. Donc imaginez-vous que votre façade avant de votre smartphone, on sait hein, quelle est l'ambition là, des constructeurs, c'est d'avoir l'écran qui prend toute la surface de votre smartphone. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui certains mettent des encoches, c'est pour avoir un écran qui prend le plus de place possible. Mais comme il faut intégrer des capteurs, notamment d'appareils photo pour faire des beaux selfies, bah, il faut mettre pour l'instant des petites encoches. Donc c'est un compromis pour l'instant. Et là, le compromis, c'est de dire bah, tout simplement, virons ce qui nous empêche d'avoir un écran sur toute la façade. Et au pire, mettons-le à l'arrière avec un petit écran, comme ça quand on retourne le smartphone, on a un petit écran qui se permet quand même de se prendre en selfie avec bah, du coup l'appareil photo à l'arrière. Moi je trouve pas ça si débile que ça finalement comme approche. Là encore, ça pose peut-être plein de questions dans des conditions réelles. Ben, moi je trouve que la proposition n'est pas complètement idiote. Qu'en pense le CCE?
Mais écoute, il faut dire, bon, c'est vrai que là, le CCE a quand même décidé de mettre les bouchées doubles dans une opération séduction d'envergure. Enfin, non, je veux dire ZTE, donc, a
Oui,
lancé une opération
à
de
destination du
aussi.
CCE plutôt.
Effectivement, du CCE. Parce que bon, c'est vrai qu'il fallait oser jarter la caméra à selfie. Pour que l'écran prenne toute la face avant, fallait oser. Et très honnêtement, bah c'est vraiment très très cool, moi je trouve. Hein. Alors évidemment, hein, pour que tu puisses quand même faire des beaux autoportraits au bord de précipices très dangereux, bah, ils ont rajouté un écran de 5,1 pouces en OLED au dos, alors que l'écran principal est de 6,26 pouces en LCD.
C'est déjà grand, hein, 5 points. Enfin, c'est
C'est
pour un
déjà très
écran à
grand, et c'est
l'arrière,
déjà assez grand,
c'est.
absolument. C'est déjà, enfin, il n'y a pas très longtemps, on appelait ça une phablette, hein, déjà. Et l'encombrement, en plus, c'est le même qu'un smartphone moyen. Il n'est pas vraiment ni plus lourd ni plus épais. Ça tourne en Snapdragon 845 et surtout, ça te coûte 470 euros dollars, ce qui est vraiment pas excessif, je trouve, pour un truc qui a deux écrans complets et qui est équipé comme un flagship, hein, globalement. Bon, alors évidemment, au niveau ingénierie, c'est vrai que c'est un peu excessif, c'est un peu abusé, mais moi aussi, j'aime beaucoup l'idée parce que bah finalement, c'est assez original, ça peut être plutôt cool. C'est un écran OLED, donc ça veut dire que si tu peux même mettre, par exemple, si tu affiches l'heure en des petits trucs très fins, ça consomme pratiquement rien. Tu peux mettre des petits wallpapers donc à l'extérieur qui consomment pas énormément si c'est des images qui sont vraiment enfoncées. Donc moi, je trouve que c'est plutôt cool. L'appareil est plutôt joli et en plus, il y a une fonction qui est plutôt rigolote, c'est que du coup, sur le dos du smartphone, tu as une zone tactile, puisque évidemment, tu peux en fait complètement utiliser ton smartphone des deux côtés. Donc, ça veut dire que tu as deux contrôles supplémentaires sur le smartphone. Tu as comme si tu avais des gâchettes à l'arrière, tu vois, ou un pad tactile arrière, un petit peu comme sur la Vita. Et du coup, bah, ça peut même augmenter les possibilités pour les jeux ou ce genre de trucs. Je trouve pas que ce soit complètement idiot. Au contraire, je trouve que c'est assez original. Et bon, bah, tu vois, on est dans une. Aujourd'hui, les smartphones se ressemblent un petit peu tous, quoi. Donc moi, je trouve que c'est bien voilà, d'avoir un truc qui est un petit peu original qui ressemble pas à tous les autres. Donc ouais, moi j'aime bien aussi.
Je me posais la question de ce qui était le plus écologique compte tenu d'un éventuel recyclage des composants. Est-ce que c'était de rajouter un écran au dos d'un appareil? C'est de l'OLED, hein, si je dis pas de
Oui, c'est
bêtises.
de l'OLED.
Est-ce que c'est plus écologique de rajouter un écran OLED au dos que de rajouter des capteurs etc. à l'avant d'un smartphone? Je me
Oh
suis
non, c'est
honnêtement posé la
probablement pas
question.
très écologique. Hein.
Non, bon, alors
Je pense que
tu
c'est pas très
achèves de.
écologique.
Tu détruis en plein vol tous mes espoirs de trouver une
Je
raison
crois pas.
verte à ce type de solution. Bon, il y a quand même des questions qui se poseront dans des conditions réelles de test, là aussi, hein. Il y a le CTT RSC qui vient de se monter, là, qui est le comité des très très riches sans coque, qui est très content de cette proposition de smartphone, mais on imagine quand même qu'il va falloir aller prendre son bâton de pèlerin pour convaincre l'ensemble de la population qui s'est habituée à protéger son smartphone. Même s'il dépasse une centaine d'euros. Donc là, avec celui-ci, il va falloir me trouver une solution avec une coque, peut-être avec une coque, avec un morceau, tu vois, amovible pour ouvrir
Bah,
l'écran de
écoute,
derrière quand tu as besoin.
tu peux demander au président du CDPE, c'est-à-dire le comité des doubles protections écran, et il te répondra qu'en fait, il n'y a aucun souci, il suffit de mettre une protection d'écran à l'avant, une protection d'écran à l'arrière, et voilà.
Oui, effectivement, deux verres et on sera bien, effectivement. Ça absorbera pas les chocs, tu vois, quand ça tombe. C'est important, les coques pour. Bon, bref, on
Bah,
va
y a,
faire le
alors, ouais,
tour.
mais, y a une coque, non, mais tu peux mettre une coque autour et deux
Oui,
protections
un
d'écran.
bumper,
Un
effectivement, un
bumper
bumper.
autour, mais ouais.
Et on est bon, on est gagné. Non, moi j'ai trouvé ça plus cool qu'il n'y paraît. Et juste un dernier mot sur ce Nubia X. Comment est-ce qu'on le déverrouille? Est-ce que c'est un Face ID, un Touch ID intégré dans l'écran? Alors, c'est pas un Face ID vraisemblablement, c'est pas un truc à reconnaissance de visage, mais je ne sais pas si je n'ai pas vu la mention d'un capteur d'empreinte digitale sous l'écran. Et je
Ah,
pense qu'à ce prix-là,
c'est
c'est
vrai,
peut-être
c'est vrai.
difficile de l'imaginer de toute façon.
Ouais,
Mais ça
c'est
va
vrai. Mais
venir.
du coup.
Optique intéressante, en tout cas, avis aux industriels, ça peut être des pistes qui pourraient séduire le CCE et d'autres comités. On continue à parler un tout petit peu d'Apple, puisqu'il y a le parent pauvre de la cartographie, et encore, quand on dit parent pauvre, il faut remettre les choses encore une fois dans leur contexte, mais qui est Apple Maps, qui concurrence depuis pas mal de temps maintenant Google Maps, qui fait pas vraiment d'ombre, hein, Google Maps, qui est de loin l'outil qui est largement préféré de bon nombre de personnes. Je pense que même les fanboys les plus convaincus utilisent eux-mêmes Google Maps, ça me faites pas mentir. Alors ça s'améliore beaucoup Apple Maps et notamment sur quelque chose de très intéressant que tu as relevé et qui est disponible dans les notes de l'émission avec un article où il y a des gifs animés qui montrent des avant-après assez impressionnants. Ils avancent notamment sur la reconnaissance de tout ce qui est terrain et composition d'espace vert, Guillaume.
Oui, Apple Maps évolue hein, avec la dernière version d'iOS 12. Hein, les Californiens ont eu le plaisir de découvrir un Apple Maps qui est globalement au niveau de Google Maps, avec même beaucoup plus de détails à certains endroits, et en particulier, comme tu le disais, sur la végétation, sur les silhouettes de bâtiments, sur les plages, les ports, etc. Parfois, d'ailleurs, néanmoins, c'est bizarre, les utilisateurs ont remarqué des erreurs qui sont un peu étranges. Parce que bon, si la plupart des caractéristiques viennent de l'extraction automatique d'informations sur des images satellites et des données récoltées par les voitures d'Apple, hein, qui sillonnent le pays un petit peu partout, ben, il y a parfois des erreurs qui collent pas vraiment avec un processus automatisé, donc il y a même une hypothèse selon laquelle une grosse partie du travail serait fait manuellement par des opérateurs humains, ce qui n'est pas si farfelu, mais c'est quand même assez
Surtout connaissant
impressionnant.
Apple.
Ouais, exactement, exactement, ils sont. Et du coup, bah pour l'instant, le niveau détail n'est disponible malheureusement que pour une partie de l'État de Californie, c'est qui représente 3,1% du territoire américain. Donc il y a encore beaucoup, beaucoup de boulot quand même. Hein. Cela dit, bah, il faut pas y voir un troll gratos de ma part, hein, pas du tout, pour une fois, parce que c'est déjà quand même assez fort, je trouve, d'avoir atteint le niveau de Google Maps avec un si gros handicap au départ. Google a mis 8 ans à parcourir tous les US hein, et il continue de mettre à jour sans cesse ses maps. Apple pourrait y parvenir en moins de temps que ça. Ils assurent qu'ils ont déjà couvert 86% des routes américaines depuis 2015. Et donc la compétitivité avec Google, la possibilité de virer TomTom aussi au passage, ben, ça se profile à l'horizon. Alors c'est quand même une nécessité hein, puisque avoir un service de cartographie performant, ben, c'est quand même une obligation pour Apple. Comme on le suppose, il va vouloir développer la réalité augmentée. Et du coup, c'est obligé d'avoir aussi des cartes sur lesquelles tu puisses mettre des choses vraiment fiables et vraiment, vraiment détaillées. Et puis, il y a aussi ce fameux projet Titan, ou bien Apple Car, que Ming Irma Kuo a vu se concrétiser en 2023, donc avec des puces TSMC d'ailleurs, pour être précis. Et effectivement, bah oui, c'est avoir une grosse cartographie et une bonne base bien fiable, ça sera certainement très très utile pour les voitures autonomes, si un jour il y a des voitures autonomes ou semi-autonomes d'Apple.
Vous en aviez parlé avec Tom, hein, les processeurs ARM sur Mac qui arriveraient en 2020-2021. Donc c'est encore une fois l'illustration de l'efficacité de l'adage de la maman de Guillaume qui dit que à force de dire tout et son contraire, on finit par avoir raison. Et le fait est que un jour ou l'autre, il y aura des processeurs ARM dans les Mac et donc j'aurai raison sur cette prophétie. Notons au passage que tu n'as jamais été contre cette prophétie, mais plutôt que tu as dit que ça prendrait un petit peu de temps. Et finalement, bah, je crois que tu as quand même raison puisque c'est pas encore arrivé. On enchaîne avec une autre rubrique. On vous a fait toucher du doigt des éléments un petit peu plus de fond d'analyse sur Apple. On va enchaîner avec d'autres propos qui tournent autour de véhicules électriques. Elon Musk, qui est coutumier du fait de s'exprimer dans des podcasts notamment, mais surtout de prendre la parole dans le cadre d'interviews en faisant des annonces toujours reprises dans la presse, est donc là intervenu dans le cadre d'une interview avec The Recode, qui est le podcast donc de Recode. C'est même Recode Décode, hein, je crois le nom exact du podcast, où Elon Musk a annoncé plusieurs choses, Guillaume.
Oui, bah en fait, il a donné une très longue interview à Kara Swisher pour Recode, comme tu dis, effectivement,
Recode
où il revient sur l'année 2018 dans son ensemble, qui est probablement effectivement l'année la plus importante et éprouvante hein, de sa carrière.
decode.
C'était pour Halloween, hein, ça durait 80 minutes, et si vous voulez écouter, bah, le lien est dans les notes de l'émission, donc parce que Recode en a fait un podcast Décode, donc le Recode Décode, et on va arrêter tout de suite avec ce truc-là.
Est-ce que ça fait peur alors?
Écoute, ça va dépendre un petit peu de ta sensibilité, je crois. Non, mais Kara l'a interrogé sur Twitter, évidemment, puisque bah, c'est par là que le gros scandale financier de la tentative de privatisation avortée de Tesla est arrivé, quoi. Alors, il assure qu'il s'exprime sur Twitter sans trop réfléchir, que c'est une manière pour lui de s'exprimer, quoi, de partager des trucs marrants, et que les gens y accordent trop d'importance, hein, et que lui-même n'y passait pas plus de 15 minutes par jour. Bon, effectivement, ça dépend. Hein. On appréciera diversement ce commentaire. Alors, les désaccords qu'il a d'ailleurs qu'il a par ailleurs eu sur Twitter aussi avec la presse ont aussi été abordés, hein, parce que pour lui, certains journalistes ne font pas bien leur travail. Il est persuadé que Tesla a des ennemis puissants dans le lobby du thermique et qu'elle est victime d'attaques médiatiques. Hein, et même s'il reconnaît que lorsqu'il parle de fake news, bah, ça le rapproche un petit peu de la rhétorique du gouvernement et que ça l'embête, bah, il se dit quand même très préoccupé par la vérité, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est un scientifique. Et il estime que si une information est fausse, bah, il n'hésitera pas à le dire. Et donc, du coup, il revient aussi beaucoup sur le travail qu'a représenté la mise en place de la chaîne de production de la Model 3, avec à la clé bah, écoute, des mois en mode crush Red Dead Redemption 2, quoi, hein, c'est-à-dire 100-120 heures par semaine, pendant lesquelles il vivait à l'usine, il carburait au Xanax, et, enfin pas au Xanax, mais au somnifère et donc aux boissons énergisantes. Et en fait, bah, il dit qu'ils sont passés à rien de la faillite. S'ils avaient raté la deadline, Tesla serait tout simplement morte. Et finalement, je crois qu'on peut vraiment le croire, hein, étant donné la dette colossale de Tesla. D'ailleurs, on avait parlé de la stratégie et de la dette de Tesla dans l'épisode précédent. Il dit que créer évidemment une marque de voiture de zéro et entrer en compétition avec Ford, Volkswagen, etc., ben c'est très difficile. Là aussi, je crois qu'on peut le croire sans problème. Mais selon lui, il n'y avait que deux options, quoi. Soit il réussissait, soit Tesla meurt. Et Tesla ne doit pas mourir, parce que pour lui, Tesla est importante pour la planète entière. Le rôle de Tesla, c'est d'accélérer la transition vers le tout électrique, vers l'électromobilité, comme on dit parfois. Il pense que Tesla fait gagner entre 5 et 20 ans sur ce front, soit en proposant directement des solutions elle-même, soit indirectement en poussant la recherche chez les concurrents. Donc en investissant dans des batteries et les panneaux solaires aussi, et donc en particulier dans ces fameuses tuiles solaires, Tesla accélère la transition vers un monde post-thermique. Parce que c'est clairement le but en fait, tuer le moteur thermique. Hein. Donc parce qu'après la Model 3, il y a une voiture qui est une voiture à peu près grand public, on va dire, qui est relativement abordable. Elon veut montrer que l'électrique est supérieur au thermique absolument partout, dans les camions avec ses semi-remorques. Dès l'année prochaine, hein, avec les voitures de course, avec son nouveau Roadster qui aura des accélérations et une vitesse qui dépassera le thermique, chez les SUV même, avec une espèce de concept qui est esthétiquement audacieux, on va dire, et qu'il a vraiment présenté comme un kiff personnel. Il a dit que ça se vende ou pas, il s'en fout un peu, mais il veut absolument le faire. Et bon,
C'est ça en
s'il est.
plus.
S'il
C'est pas
est.
exagéré quand tu dis ça, c'est.
Non, non, c'est ça qui est magnifique. Bah, c'est Elon Musk, hein.
Oui,
C'est
c'est vrai.
Larger Than Life. Et donc, il est fermement opposé aux trottinettes électriques, parce qu'il dit qu'on ne peut pas rester digne sur une trottinette électrique, hein. Il
Qu'est-ce que
exclut
c'est que
pas.
cette excuse, sérieux?
Je sais que ça te touche
J'ai trouvé ça
personnellement.
génial.
On ne peut pas rester
Non, mais
digne
si, je
sur
trouve ça formidable comme
une trottinette
excuse,
électrique.
quoi.
Mais bon, par contre, il exclut pas un vélo. Bon, moi, je m'attendrais pas vraiment à ce que ce soit sérieux, parce que je pense qu'un vélo, c'est juste pas assez excitant pour lui, un vélo électrique, tu vois. D'ailleurs, il a annoncé que Tesla serait le premier sur les voitures autonomes, en particulier sur la conduite autonome généraliste. Et parce que c'est ça, c'est intéressant, parce qu'il faut pas oublier que même Waymo, il va se baser sur une carte 3D ultra détaillée des endroits où elle roule, la voiture. Et donc, si tu la balances dans la pampa, ben, elle va être paumée. Or, d'après ce qu'il dit, les futurs Tesla seront capables, selon lui, hein, de s'autopiloter partout, avec juste ce que voient les six caméras. Et c'est quand même très très ambitieux, c'est vachement intéressant, donc j'attends impatiemment de voir ça, moi, tu vois. Alors, il a officiellement, par ailleurs, annoncé la fonction Advanced Summon pour ces Tesla. Donc, c'est une fonction où tu appuies sur un bouton de l'application Tesla sur ton smartphone,
Qui est
et la
cool.
voiture te rejoint et te suit comme un jeune chiot. Tout foufou. Il me paraît que tu peux même la piloter sur le téléphone comme une grosse voiture radiocommandée. Bon, ça reste des annonces à base de tweets, hein, cela dit, mais c'est quand même assez, assez fascinant comme truc. Et bon, tu sais, c'est Elon, donc il a plein d'idées, hein. Il pense même
Bon, ça me fait
à.
plus rêver que le smartphone pliant.
Ah ben, c'est normal, c'est normal, c'est normal quand même. Et tu sais qu'il rêve aussi à un véhicule léger volant électrique, hein, depuis des années, mais bon, pour le moment, il souhaite rester concentré sur les tunnels, parce que ben, il kiffe les tunnels. Voilà. Sa fierté, c'est d'avoir fait baisser le prix du mileage de tunnel à 10 millions de dollars, et ce qui est effectivement vraiment très très faible par rapport au coût, disons, classique de creux. Quand tu creuses un tunnel pour faire des métros, c'est pas 10 millions le miles. Hein. Bon, donc ça veut dire que probablement il y a de beaux jours qui s'annoncent pour la Boring Company, qui va d'ailleurs incessamment ouvrir son premier tunnel. Hein. Bon, c'est Elon, donc évidemment il pense beaucoup à l'espace. Il envisage toujours d'envoyer des trucs sur Mars, hein, une sonde en 2024, probablement non habitée néanmoins, donc probablement une sonde
C'est
automatique.
mieux dans un premier temps.
Et donc voilà, donc Elon, alors voilà, donc messie de la transition écologique, Elon, c'est difficile à dire, hein, c'est une question complexe. Hein, d'ailleurs, bon après on va pouvoir en discuter, hein, parce que avant l'émission, tu avais relevé des articles qu'on voit passer sur les réseaux sociaux qui fustigent un peu les voitures électriques et qui seraient donc aussi polluantes que les autres, voire pire. Et bon, ça c'est vrai que
C'est
c'est quand
compliqué
même.
de répondre à cette question d'ailleurs. Enfin, il faut. C'est pas une réponse qu'on peut donner comme ça en claquant des doigts, et ça demande un petit peu de travail pour analyser quel est l'impact écologique du cycle de production et de vie d'un appareil électrique versus un appareil thermique.
Ben, c'est clair que les voitures électriques sont polluantes aussi.
C'est
Euh,
ça,
c'est, le truc, c'est que elles ne polluent pas de la même manière que les véhicules
hein.
thermiques. Et alors, tout l'enjeu, c'est de savoir si elles sont plus ou moins polluantes sur l'ensemble du cycle de vie, c'est-à-dire de la naissance, quoi, enfin, de la fabrication plutôt, à la mort, c'est-à-dire au recyclage. Et c'est vrai que c'est une question qui est beaucoup trop complexe, hein, pour un truc sur un article de 20 lignes ou un truc à la cantonade. Hein, parce que c'est vrai qu'il y a de multiples facteurs. Parce que, bon, grosso modo, les véhicules standards polluent peu à la fabrication, puis beaucoup pendant l'exploitation. En gros, les voitures électriques, elles vont polluer beaucoup pendant leur fabrication. Potentiellement beaucoup moins pendant leur exploitation et potentiellement beaucoup après leur mort. Mais le truc, c'est que ça va dépendre beaucoup du pays et du mix énergétique qu'ils utilisent. Le bilan va être différent en France et en Allemagne, par exemple. Hein. Mais en fait, le truc, c'est que la voiture électrique, c'est pas l'équation. C'est une variable d'une équation qui est beaucoup plus large. La voiture électrique, elle va se concevoir pas isolément, mais dans une démarche globale de transition écologique. Les progrès sur les prix, la durée de vie des batteries, sur le recyclage, sur la réutilisation des batteries qui sont un peu fatiguées après la phase d'exploitation d'une voiture qui pourrait être exploitée dans d'autres secteurs, ben, c'est une partie qui est très importante aussi de l'équation. Et donc, la part d'énergie renouvelable dans le mix énergétique d'un pays, ben, c'est aussi extrêmement important pour savoir si une voiture électrique est valable ou pas. Tout ça, c'est compliqué. Et donc, en l'état, ben, on peut que se fier à des analyses d'experts, quoi. Et la plus récente que je connaisse, hein, donc elle est partie en 2018, c'est une étude qui a été menée de 2016 à 2017 par la Fondation Natureum et l'ADEME. Bon, la conclusion rapide, c'est qu'une voiture électrique en France est 2 à 3 fois moins émettrice de CO2 qu'un véhicule diesel. Alors, la pollution aux particules aussi est sans aucun doute sans commune mesure inférieure, puisque le moteur n'en produit pas et que les plaquettes de frein sont beaucoup moins sollicitées, puisque l'énergie du freinage est globalement récupérée sur une voiture électrique. Donc, évidemment, plus rapide et efficace sera la transition écologique, meilleure sera la voiture électrique. Alors évidemment, hein, tu peux penser que du coup, dans certains pays, la voiture électrique, c'est encore pire, ou que même en France, la transition ne se fera pas, se fera mal, que tout ça. Bon, voilà, c'est vrai qu'il y a plein d'incertitudes légitimes. Bon, au final, si on y réfléchit globalement, l'électromobilité, donc, c'est une facette d'une transition qu'à mon avis, on va bien être obligé de faire à un moment donné, sous peine de se prendre le réchauffement climatique en pleine gueule, et voilà, dans les décennies à venir, quoi, hein, et dans pas très longtemps. Donc, dans ce cadre, si tu veux, défendre la voiture thermique, comme on le voit en filigrane dans les articles qui décrit la voiture électrique, est-ce que ça a du sens? Tu as continué sans rien changer à utiliser des voitures thermiques, est-ce qu'on peut encore se le permettre de toute façon, tu vois?
Et puis il y a le
Donc,
débat après derrière de ceux qui argumentent sur le fait que, encore une fois, cette électricité en France est largement produite par du nucléaire et qui, certes, lui, n'a pas d'impact carbone, mais a d'autres impacts. Effectivement, finalement, je pense que si l'idée c'est de dire ce n'est pas la solution parfaite, je pense qu'on tombera
on
tous
est tous
d'accord pour
d'accord,
dire que ce n'est pas la solution parfaite.
oui. Bien sûr.
Après, encore faut-il arriver à se dire qu'est-ce qui est réalisable aujourd'hui et où est l'urgence? Je pense que l'urgence aujourd'hui, elle est dans l'impact de la production de carbone. Et c'est d'ailleurs ce qui oriente les réflexions aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit se contrefoutre de la manière dont sont gérés les déchets nucléaires, par exemple. Mais c'est évidemment une priorité énorme. Je pense qu'on est aujourd'hui assez nombreux à être sensibilisés sur le sujet. Je parle facilement de consensus, en tout cas. On enchaîne sur ces éléments, bon, allez, quand même réjouissants, parce qu'on est en train de définir des solutions pour notre planète, quand même, pour la mobilité. Même si je reprends encore une fois des propos de Tom Comte, avec qui j'avais échangé déjà sur ce sujet, et encore une fois, un monde idéal, ce serait évidemment de repenser un peu le système. Je reprends un peu ses propos. On enchaîne sur des éléments peut-être un peu moins réjouissants avec la rubrique Déprimé avec Guillaume P. Tu commences. Alors, quoi de mieux pour commencer à déprimer que de parler de pub, de politique et de Facebook? Guillaume.
Oui, ben oui, c'est vrai que dans un effort louable et nécessaire de lutte contre la manipulation des élections, Facebook avait mis en place une mention paid for by, c'est-à-dire payé par un tel, quoi, sur les pubs d'ordre politique. Alors, le but, c'était évidemment plus de transparence, hein, et puis bon, on l'espérait, un certain filtrage dès la demande par les annonceurs, quoi. Alors, bon, ce dernier espoir est mort, puisque Vice et Business Insider se sont amusés un petit peu à publier des pubs estampillées Cambridge Analytica, Mike Pence, 100 sénateurs américains et l'État islamique. Bon. Et toutes ces campagnes sont passées comme une lettre à la poste. Elles ont tourné d'ailleurs sur une audience restreinte. Hein. Certaines ont quand même fini par être repérées après coup par Facebook, mais le fait qu'elles aient été acceptées déjà en premier lieu, c'est quand même pas très rassurant pour les élections de mi-mandat, ni pour toutes les autres d'ailleurs. Bon, voilà, c'est. Tu avais. Alors, tu dis que c'est déprimé avec Guillaume P, mais tu avais toi-même trouvé une magnifique news à propos de Facebook, à propos d'une catégorie de la population que Facebook permettait de cibler.
Déprimé avec les Guillaume, en fait. Je pense que ce serait
Déprimé
la
avec
vraie
Guillaume
nouvelle.
V, ça marche aussi.
Ça marche aussi. On peut déprimer tous ensemble. Déprimons tous ensemble. Bah, finalement, c'est quelque chose de tout aussi interpellant. C'est simplement le fait que Facebook proposait, il n'y a pas si longtemps que ça, comme critère de ciblage, d'aller adresser les publicités aux membres de Facebook qui croient au génocide blanc. Je cite, hein, génocide blanc. En gros, c'est des révélations qui sont intervenues évidemment quelques jours après la tuerie antisémite de Pittsburgh aux États-Unis, ce qui avait lieu fin octobre. Et il y avait un suprémaciste qui pensait que les Juifs préparaient un génocide blanc. Donc évidemment, quand on fait preuve d'un petit peu d'éducation et quand on consulte un petit peu l'information de manière générale sur Internet, qui n'est pas complotiste, on sait évidemment on sait vraiment ce qu'il en est, on ne va pas redétailler le sujet de fond maintenant, mais simplement c'est une catégorie qui était mise à disposition comme plein d'autres hein, par Facebook et qui a été supprimée. Alors il faut quand même remettre un tout petit peu encore une fois les choses dans leur contexte, c'est que c'est pas une excuse, hein, mais c'est un élément d'explication. Facebook propose énormément de critères de ciblage qu'il ne contrôle pas, et c'est un vrai problème, en s'appuyant sur des pages. C'est-à-dire que, en gros, si vous aimez Tech Café et que Tech Café est une page sur Facebook qui rassemble un très grand nombre de personnes, automatiquement va se créer la cible des personnes qui ont exprimé un intérêt ou qui ont liké des pages relatives à Tech Café. Ça peut être vrai pour le podcast, ça peut être vrai pour plein de choses. Et finalement, je pense que le gros problème de Facebook, c'est d'avoir largement automatisé la création de cibles sur la base des pages qui sont créées sur Facebook, sans avoir d'ailleurs mis suffisamment de garde-fous à la création de pages ou à la création d'espaces de rassemblement de type groupe, ce qui génère du coup, par extension, des critères de ciblage aussi ubuesques que, effectivement, ceux qui permettent de cibler des personnes ayant exprimé un intérêt ou liker des pages relatives aux théories conspirationnistes du génocide blanc. Donc c'est quand même assez déroutant de voir que le temps passe et que Facebook n'a toujours pas compris qu'il ne fallait plus s'excuser et retirer ces éléments gênants pour ensuite en découvrir d'autres et les retirer, mais simplement comprendre que le move à mettre en place, c'est d'arrêter, selon moi et dans ma perception des choses, de fonctionner de manière aussi massive sur des critères de ciblage qui sont pour moi générés automatiquement. C'est-à-dire, je n'ose pas imaginer une seule seconde qu'il y ait un collaborateur de Facebook qui ait mis en place ce critère de ciblage sciemment dans Facebook. Je n'y crois pas une seule seconde. Vraiment, je suis convaincu que ce sont des trucs qui sont générés automatiquement. Et comme je le disais, c'est pas une excuse, mais c'est un élément d'explication. Et pour moi, c'est là où Facebook devrait très 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 rapidement mettre en place un certain nombre d'actions correctives. C'est non pas de modifier des critères de ciblage ou des fonctionnements publicitaires, mais plutôt d'arrêter de fonctionner de manière aussi automatique. Je pense que c'est d'ailleurs ce qui explique le fait que les publicités de Vice et Business Insider soient passées aussi facilement. C'est qu'il y a encore énormément de choses qui sont basées sur des validations automatiques. Est-ce qu'on peut faire autrement? Probablement pas, ça doit être très difficile, mais en tout cas c'est un vrai problème pour eux, ça c'est clair, et du coup mais pour nous par extension.
Mais attends, mais tu penses alors déjà c'est vrai que automatiquement il y a un algorithme qui a sorti génocide blanc comme thème.
Ouais, je suis à peu près certain qu'il y a un déjà, algorithme fort, qui a identifié ça sur la base de pages qui existaient parce qu'ils ont laissé se créer de trop raisons. De pages sur ce thème là. Ouais, j'en suis persuadé.
Déjà, je veux dire, l'algorithme, il faut qu'il reconnaisse un truc conceptuellement comme le génocide blanc, mais en plus, il faut qu'il y ait suffisamment de gens qui soient intéressés par ça. Donc c'est quand même inquiétant à plein de niveaux, d'une part. Et d'autre part, je veux dire, tu veux dire que personne n'a jamais vérifié les catégories qui existent. Il n'y a personne, il n'y a pas un mec chez Facebook qui fait une révision des catégories qui existent et qui voit passer ça et qui tilte.
Bah, de fait, dans tous les cas, quelle que soit la méthode de fonctionnement du critère de ciblage, je te dis, ou alors, on peut soutenir la thèse qu'il y a sciemment des personnes chez Facebook qui ont créé ce critère de ciblage. Moi, j'y crois pas une seule seconde. Je trouve ça invraisemblable. Et je pense qu'effectivement, de la moins improbable des explications, effectivement, c'est celle de dire qu'il n'y a pas de garde-fou. C'est-à-dire qu'en gros, manipulant un petit peu Facebook de mon côté au quotidien par certains aspects, je me rends compte de plus en plus à quel point le fonctionnement des outils de médiatisation et même des outils, j'allais dire, de création de contenu pour les entreprises, les entités, sont basés sur des choses qui sont très automatisées et qui ne font pas l'objet de vérification. Ça, je trouve ça dingue. Tout mais aussi grave que de créer un critère de ciblage, soyons clairs. Je trouve ça tout aussi grave de dire je laisse faire par un algo et je ne vais pas le modifier derrière, je ne mets pas de garde-fou.
Ouais, mais c'est ça, parce que ça veut dire qu'en gros, tant que c'est efficace financièrement, on laisse comme ça jusqu'à ce que ça gueule, globalement.
Oui, c'est ça. Je pense que peut-être que dans le fond, ce qu'on pourrait reprocher si on voulait faire preuve de cynisme, et ce qui serait probable, je pense, c'est de se dire qu'il y a effectivement des armées de mecs qui se sont dit « il vaut mieux pas mettre de garde-fous ». Et il vaut mieux laisser des systèmes faire un peu des trucs pas trop moralement corrects parce que personne pourra nous taxer d'avoir sciemment créé ce truc-là, sauf que c'est tout aussi grotesque de le laisser faire et de ne pas intervenir derrière. C'est évidemment mon interprétation, je ne me base pas sur des éléments de recherche journalistique, mais plus le temps passe, plus je suis convaincu que ces critères de ciblage, il y en a une arborescence qui est faite sur la base de ce que propose Facebook, sur la base de ce que proposent même des partenaires de Facebook, même si l'affaire Cambridge Analytica a largement limité les choses, mais je suis absolument convaincu qu'une grande, grande part de critères de ciblage thématiques et affinitaires, sont générés presque automatiquement. Et de toute façon, si on donne une meilleure explication plus moralement correcte, ça me va.
Non, mais c'est tout à fait possible. Hein. Mais c'est vrai que donc c'est un mode de fonctionnement. Après, c'est vrai que ça rejoint quand même aussi la news précédente, en fait. Hein, parce que moi, je comprends, en fait, à la base, je comprends même pas pourquoi est-ce qu'il existe seulement de la pub politique. Parce que c'est fondamentalement antidémocratique. Non ? Je veux dire, c'est une sélection par le fric. Au plus tu as de fric, au plus tu peux être visible. Et donc, par essence, ça tord le processus démocratique.
Ouais,
donc
là où
là,
je sais
on
pas
discute
ce
de
qui se
mesures. Oui,
passe,
vas-y.
c'est. Est-ce qu'aux États-Unis, la publicité pour les partis politiques est encadrée comme en France? J'en sais rien. Franchement,
Non, mais le
j'ai
truc, c'est
aucune
que c'est ça le cœur du problème, c'est qu'on discute de mesurettes que prend Facebook pour tenter de mettre un peu transparent dans tout ce foutoir,
Ouais.
mais c'est pas vraiment ça le problème. Je veux dire, si Facebook devrait juste arrêter de permettre de faire de la pub, et d'ailleurs, je pense que dans tout le pays devrait se rendre compte que bah, peut-être que faire de la pub pour la
Bien
politique,
sûr.
ça tord le processus démocratique à la base, si tu veux. C'est fondamentalement contre-productif, démocratiquement parlant, évidemment. Tu vois? Mais apparemment, personne, apparemment, ça a l'air de venir à l'esprit personne, quoi, ça.
Oui, tout à
C'est
fait, tout à fait.
juste un secteur économique monstrueux, en fait, et que personne, surtout personne, ne veut y toucher.
Mais d'ailleurs,
C'est.
je ne sais pas comment ça se passe d'ailleurs vraiment en France. Moi, je sais que dans le cadre, évidemment, on le sait tous, hein, dans le cadre de campagne électorale, c'est encadré puisque les partis politiques doivent déclarer les montants investis, pas que pour la publicité d'ailleurs, hein. On se rappelle de certains candidats à l'élection présidentielle qui ont vécu a posteriori des élections des enquêtes sur le financement de leur campagne. On ne va pas revenir évidemment sur ces sujets-là. Mais ces choses-là sont encadrées dans le cadre d'élections. Mais qu'est-ce qui se passe en dehors? Pour le coup, j'ai une vraie méconnaissance. Je vais peut-être m'intéresser sur le sujet. Mais comment est encadrée la publicité politique en France? Alors, aux États-Unis, j'en sais fichtrement rien. Mais en France, ça m'intéresserait de savoir comment c'est encadré.
Bon, je pense qu'ils ont le droit, hein. Hors campagne, je pense
Oui, mais
qu'ils ont le
est-ce qu'il y
droit,
a des
non?
limites? Est-ce qu'il y
Oui,
a des
c'est vrai que je ne suis
critères
pas complètement. Ouais,
C'est aussi ça. Mais oui,
intéressant.
je pense qu'ils ont le droit, effectivement. Et sur les réseaux sociaux, j'en sais rien. Mais je pense que oui, par extension. On continue avec la rubrique déprime. Alors, on va mettre de côté la politique. Qu'est-ce qui pourrait nous déprimer plus que la politique, Guillaume?
Bah, écoute, peut-être le harcèlement sexuel, je pense
Allez,
que ce serait
allons-y.
mal.
Je retire
Ouais.
cette carte. Allons-y.
Allez, oui, parce que Andy Rubin, c'est le papa d'Android, et c'est quelqu'un de donc très célèbre, qui a pas mal contribué à la fortune de Google, hein, et quand il est parti en 2014 avec un chèque de 90 millions de dollars et un gros bisou, bah, personne n'a vraiment tilté plus que ça. Et pourtant, à l'époque déjà, il était sous le coup d'une accusation de harcèlement sexuel. Le New York Times dédie un long article sur le comportement de Rubin à Google, de lui et de deux autres cadres d'ailleurs, hein, Richard Devol, directeur de Google X, et Amit Singhal, qui est chef de Google Search. Bon, c'est une histoire un peu sordide qu'on va pas détailler ici, qui s'accourt sur une petite décennie, et à chaque fois, les intéressés sont partis de Google avec des millions de dollars d'indemnités, et en particulier Rubin, hein, qui par ailleurs a récolté pas moins de 350 millions pendant son passage chez Google. Et donc c'est vrai que le combo harcèlement sexuel parachute doré, ça plaît pas trop chez les principaux intéressés, c'est-à-dire les employés de Google. Et c'est la raison qui a poussé pas moins de 20 000 de ses employés, c'est-à-dire à peu près 20% de sa masse salariale, à faire une sorte de manif pour protester contre la manière qu'a eu Google de gérer ses affaires le 1er novembre. C'était le 1er novembre dans 50 villes du monde entier. Sundar Pichai, d'ailleurs, s'est excusé au nom de l'entreprise et assure que Google, à l'avenir, aura une attitude beaucoup plus dure envers les comportements inappropriés. Voilà, c'est toute une voilà, je pense que Google est sans doute pas la seule entreprise où il peut y avoir des problèmes, mais bon, bah, c'est toujours bien que les choses avancent, on va dire.
Ouais, on a beaucoup discuté, enfin on a beaucoup, tout est affaire de proportion, mais on a pas mal échangé avec Guillaume sur le choix de relayer un petit peu cette news. Et on l'avait vu passer dans nos veilles des semaines précédentes. La raison pour laquelle moi, de mon côté, j'avais pas initialement choisi de la relayer, c'est que finalement c'est un peu basé sur des suspicions, et si on s'applique en France à raisonner, enfin tel qu'on devrait raisonner si on était uniquement en France, il y a la présomption d'innocence, et je trouve ça toujours un peu délicat de mettre en avant des scandales qui touchent une personne en particulier comme ça nominativement, alors qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, et je pense que c'est le rôle de la justice de le déterminer. Mais ce serait peut-être mettre de côté un problème qui doit exister dans la sphère tech. On avait beaucoup parlé du climat qui pouvait y avoir chez Uber, qui peut-être a évolué, puisqu'on n'entend plus vraiment de remarques à ce sujet-là. Mais là où on entend parler souvent de Google comme étant le Saint Graal de l'environnement de travail, on se rend compte que c'est peut-être très très loin d'être le cas et qu'il faut rester très vigilant. Et après tout, si les manifestations et si les différentes plaintes peuvent encadrer le sujet et améliorer la condition de travail pour ces personnes-là, bah après tout, c'est bien mieux. Autre sujet de déprime, mais qui est sur un registre quand même sensiblement différent. Moi, c'est quelque chose que j'ai vu passer suite à une publication sur son blog et d'ailleurs dans son podcast perso de Mathieu, mon camarade de Relife, le podcast qui améliore votre quotidien. Si jamais vous ne connaissez pas, allez jeter un petit coup d'œil. R-E-L-I-F-E, qui parle donc sur son blog et sur son podcast perso. Du Cloud Act, est-ce que tu l'avais vu passer avant Guillaume ou est-ce que tu l'as découvert comme moi ou est-ce que tu l'as peut-être redécouvert au travers de cet article ?
Non, je l'ai vraiment découvert en fait, c'est toi qui me l'as fait découvrir cet article. Et donc oui, le Cloud Act, tu veux continuer ?
Vas-y. Oui.
Ben alors Cloud Act, donc alors le cloud de Cloud Act, évidemment ça fait allusion au cloud computing. Mais comme c'est les États-Unis et qu'ils adorent, c'est encore Jean-Michel Acronyme qui a frappé, ça veut dire Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act. Of Data, donc Act après. Et donc globalement, c'est une loi qui permet de gérer les données à l'étranger, les données qui sont donc gérées par des entreprises américaines. Donc par exemple, les forces de l'ordre américaines, elles peuvent contraindre des fournisseurs de services américains de fournir les données stockées sur leur serveur. Mais que si ces données sont aux États-Unis, c'est très bien. S'ils sont dans un pays étranger, c'est pareil. Et du coup, effectivement, même si c'est vos données à vous, Françaises et Français, qui êtes concernés avec des serveurs qui sont en France, et ben écoute, c'est pas grave, parce que si vous êtes chez Google et que le gouvernement américain veut savoir ce qu'il y a, et ben il le saura. Donc c'est un petit peu fort de café quand même, et globalement c'est clairement encore une fois Donald Trump qui s'amuse à foutre le why, parce que c'est une loi qui est passée en catimini. Apparemment, il y avait des milliers de pages de budget, de trucs qui sont passés, et à l'intérieur il y avait 20 pages qui représentaient le Cloud Act, complètement paumé, ça a été voté de manière quasiment en scred, quoi, vraiment. Et bon, évidemment, c'est contraire au RGPD, donc ça fout le bordel passe entre les relations dans les relations transatlantiques, puisque si les Américains veulent utiliser le Cloud Act, ben les Européens vont dire oui, mais c'est contraire au RGPD, donc c'est comme à mon avis, c'est complètement incompatible. Donc ça jette encore des tensions, enfin, voilà, ça met encore de l'huile sur le feu, donc encore bravo l'administration de Trump, parce que c'est vraiment mais n'importe quoi. Au-delà, même conceptuellement, je pense que même au niveau juridique, c'est complètement stupide, parce que bon, c'est complètement contraire à plein d'autres lois internationales. Enfin, bon.
Ouais, c'est compliqué d'arriver à mixer le Cloud Act et le RGPD et d'arriver à en comprendre un truc logique là-dedans. Ce qui est étonnant finalement, c'est même sur le plan des relations internationales de faire passer un truc comme ça. Moi vraiment, ce qui m'étonne, c'est de ne pas le voir relayer beaucoup, ce Cloud Act, dans la news, dans l'actualité tech, de manière générale, mais même politique en fait, hein, parce que la portée est énorme. Et je comprends Mathieu qui se sensibilise sur le sujet de son Québec. Pour en parler, et je trouve ça très cool qu'on en parle tous ensemble. Du coup, si vous avez des éléments complémentaires sur le Cloud Act, surtout n'hésitez pas à les partager, parce que c'est un sujet qui mérite, à mon avis, d'être largement creusé. Allez, un dernier mot pour de la déprime, peut-être. De liberté sur Internet, c'est toujours intéressant de suivre ça pour savoir si on doit se déprimer ou pas.
Mais oui, alors il y a un think tank qui s'appelle Freedom House et qui tente chaque année de quantifier la liberté d'Internet. Aïe. Alors cette dernière décline, oui.
C'est courageux.
C'est courageux, oui, c'est très courageux. Alors il faut savoir quand même que c'est la dernière décline depuis au moins 8 ans, voilà, donc ça y est, j'ai tout spoilé. Donc Freedom House attribue un score à chaque pays, le score est sur 100 et ça quantifie les obstacles en gros à l'accès web. Donc justement, il y a ces obstacles physiques ou pas, hein, il y a le filtrage éventuel et les violations aux droits des utilisateurs. Et donc tout ça, ça fait un score, et au plus le score est faible, c'est-à-dire en gros, au moins il y a d'obstacles, au mieux c'est. Donc pour vous donner l'idée de qui est derrière, c'est quand même pas les premiers pingouins venus, c'est parce que c'est financé par le département fédéral du Bureau de la démocratie américaine, le ministère néerlandais de je sais plus quoi d'ailleurs, du travail ou je sais plus quoi, la New York Community Trust, c'est financé aussi par Google et par Oath, qui, je rappelle, était Yahoo, et l'Internet Society. Donc la France, par exemple, a un score de 25 et la Chine un score de 88. Cherchez l'erreur. Les États-Unis ont un score de 22, la Russie de 67, etc. Alors la raison pour laquelle d'ailleurs on a un score de 25 et pas moins, c'est à cause des mesures qui ont été héritées de l'état d'urgence qu'on a eu entre 2015 et 2017. Donc des trucs dont on avait déjà parlé. Donc tout est détaillé sur le site pour chaque pays, c'est fait assez sérieusement avec moult références. Et donc Freedom House teste 65 pays et dans 26 la situation s'est détériorée, les 26 pays dont les États-Unis au passage. Alors, en plus la Chine est la locomotive de la tendance, hein. Non seulement son score n'est pas meilleur que l'an dernier, ça aurait été étonnant, mais en plus elle tisse des liens avec plein de pays pour exporter ses petites méthodes dans pas moins de 36 des 65 pays analysés, et principalement en Asie du Sud-Est, en Afrique et au Moyen-Orient. Parce que ces technologies de censure et de surveillance globale, eh bien, ça intéresse le Vietnam, par exemple, la Tanzanie ou l'Ouganda, entre autres. Et donc, dans 18 pays, le gouvernement a aussi accru la surveillance et souvent demande des accès inconditionnels aux données personnelles et où ils luttent contre le chiffrement. Et bon, il y a même 17 gouvernements qui ont imposé des mesures limitant l'expression en ligne, en lutte contre les fake news, donc à tort ou à raison. Bah, fake news et propagande, c'est que c'est toujours un truc à double tranchant, hein, puisque le think tank reconnaît bien entendu que cette année encore, les fake news pouvaient déstabiliser les démocraties. Hein. C'est même Adrien Chabaz, qui est directeur de recherche à Freedom House, qui le reconnaît. Donc voilà, bah, oui, donc c'est voilà, vous pouvez déprimer tranquille. La liberté d'Internet ne fait que décroître.
Dommage. C'était la rubrique déprimée avec Guillaume P qui fonctionne toujours aussi bien. On verra si ce sera la rubrique déprimée ou chronique dystopique peut-être dans les futurs épisodes. En tout cas, le rendez-vous est pris. On va suivre toutes ces infos-là. Et puis, on vous donnera un petit peu l'indicateur semaine après semaine, comme pour le reste, bien entendu. On enchaîne avec une rubrique en bref où on a finalement pas tant de choses que ça comparé à d'autres épisodes de Tech Café où on a des rubriques en bref interminables, mais là c'est bien, c'est condensé, on va pouvoir avoir le temps de rebondir sur le sujet. L'instant intelligence artificielle, c'est cette news que j'ai vu passer, que j'ai trouvé très maligne et qui d'ailleurs me permettait de faire un petit clin d'œil de recommandation dans la vie de tous les jours. C'est l'info comme quoi le MIT se serait inspiré de la manière dont les enfants apprennent le langage pour en créer une intelligence artificielle qui se base sur les sous-titres d'une vidéo, et la vidéo évidemment, pour associer des mots aux images qui défilent et d'arriver à en comprendre le langage. Et finalement, j'ai trouvé ça super malin de voir les usages qui pouvaient en être faits. Alors, il ne faut pas qu'ils prennent des sous-titrages pirates sur les sites de torrent pour ne pas apprendre le langage avec des erreurs. Mais j'ai trouvé ça très malin parce qu'effectivement, moi, j'ai toujours entendu dire, et j'ai pu l'expérimenter à mon humble niveau, le fait que quand on voulait apprendre une langue, il n'y avait probablement rien de mieux que de consulter des séries ou des films sous-titrés dans la langue que vous souhaitez apprendre. Et dans un premier temps, de bouffer ce contenu-là en le binge-watchant pour vous immerger dedans et en consultant les sous-titres, et par la suite, peut-être de supprimer les sous-titres pour les remettre par la suite. Mais en tout cas, c'est une méthode qui est assez intéressante pour apprendre des langues ou peut-être parfois apprendre un petit peu mieux une langue que vous avez appris autrement. Est-ce que tu avais vu passer cette news, Guillaume, et est-ce que ça te surprend ou pas qu'on puisse se baser sur des sous-titrages pour apprendre le langage ? Moi, je trouve ça malin, non ?
Ouais, bah c'est malin, mais c'est surtout très très fort parce que c'est pas du tout évident. Parce que ce que fait le robot, c'est que c'est un robot sémantique, c'est-à-dire que le but c'est qu'il apprenne à comprendre une phrase, les concepts qui sont dans une phrase. Et donc pour faire ça, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on reste textuel. On lui fait lire du texte et on lui associe du texte à des sens, quoi. On essaie de lui faire comprendre le sens comme ça. Là, ce qui se passe, c'est qu'ils ont couplé le moteur sémantique et donc un moteur visuel, donc un truc qui peut effectivement analyser des images, et ils ont fait ça sur des vidéos. Alors, par contre, ils n'ont pas fait ça sur Netflix, hein. Ils ont fait ça avec des vidéos qu'ils ont fait pour l'occasion. Donc, je crois qu'ils ont compilé 400 vidéos qu'ils ont fait annoter par par des gens sur Mechanical Turk, quoi, pour avoir des choses bien propres, en fait, hein. C'est pas encore n'importe quoi. Et du coup, le but, c'est le robot regarde des vidéos, lit les sous-titres, et il associe ce qu'il voit dans la vidéo avec le sous-titre, mais après, le but, c'est de se passer de la vidéo. C'est-à-dire qu'il faut qu'il comprenne le sens des phrases qu'il lit en fonction de la vidéo, mais après, il faut qu'il se passe de la vidéo. Tu vois ce que je veux dire?
Bien
C'est-à-dire
sûr.
qu'après, il faut lui présenter une phrase sans vidéo, et il faut qu'il sache si la phrase a un sens ou pas, uniquement en ayant appris avec les vidéos, parce qu'évidemment, les trucs se recoupent au bout d'un moment. Donc c'est quand même vraiment très très fort, parce que du coup, on passe par l'intermédiaire de la vidéo pour avoir un moteur sémantique. C'est assez génial parce que, bah, effectivement, si le truc est suffisamment robuste, on peut imaginer que au lieu d'avoir des vidéos préenregistrées, on ait des robots qui apprennent en temps réel, c'est-à-dire en observant autour d'eux. Et donc, qui s'améliorent continuellement. Exactement pour le coup, comme un gamin, puisque c'est ce que fait un gamin, en fait, hein. Il observe en permanence, il s'améliore en permanence grâce à ça, en associant les concepts et les
Oui,
images, les
il
sons,
n'apprend
tout
pas le
ça.
langage que sur Netflix, l'enfant. Enfin, j'espère.
Ça dépend des familles, peut-être, je sais pas. T'imagines si sur les sopas, s'il fait ça que sur les sopranos. Donc, ouais, donc c'est quand même vraiment très très fort, ouais, c'est assez impressionnant pour le coup, c'est clair.
Ben bravo, encore une prouesse de l'intelligence artificielle comme on les aime. Dans un autre niveau d'enthousiasme, peut-être qu'on va commencer à pouvoir évoluer sur les technologies d'écran qu'on va voir autour de nous, et notamment celles quand on manque un peu de place, Guillaume.
Ben oui, parce que tu sais pas où mettre ta télé? Ben, t'as qu'à
Non.
l'enrouler.
Oh, quelle bonne idée. Comme un bon vieux rideau de projecteur.
Exactement, exactement. Alors ça, c'est un prototype qui pourra être présenté par LG. Ce sera une télé 65 pouces qui rentre dans son logement, en fait. Elle a un socle, mais sauf que le socle, ben, à l'intérieur, elle s'enroule comme un écran de projection, effectivement, donc elle disparaît totalement. C'est plutôt marrant, c'est une application sympa des écrans OLED pliables, dont on n'arrête pas de parler, hein, finalement. Mais voilà, c'est pour le coup, bon, je sais pas à quel point c'est vraiment utile, pour être tout à fait honnête, mais bon, pourquoi pas.
Bon, j'imagine que les
Ça
architectes
te
trouveront plein
dit?
d'idées d'utilité de ce genre
Oui,
de
mais
choses.
bien
Oui.
sûr, bien sûr. Certainement.
Alors justement, on parle de technologie d'écran, on parle régulièrement de l'OLED, de QLED. Quelle est l'innovation en la matière?
Ben, en fait, là, c'est assez étrange parce que le QLED et l'OLED, j'avais bien expliqué que c'était totalement différent, puisqu'il y en a un, c'est donc les points qui émettent leur propre lumière, alors que le QLED, c'est une variation, si tu veux, sur le mode du LCD, quoi. C'est des LCD avec un rétroéclairage plus pur grâce à des petites boîtes quantiques. Bon, là, du coup, Samsung, ils se disent, bon, ben voilà, chacun a ses avantages, ses inconvénients. Nous, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de marier les deux, et donc ils veulent faire des Quantum Dot OLED TVs, c'est-à-dire qu'ils sont non seulement Quantum Dot, donc voilà, mais qu'ils sont aussi OLED. Bon, alors, comment ça marche? Ben, alors, du coup, ils utiliseraient en rétroéclairage ben, des OLED, mais des OLED qui seraient bleus, et qui enverraient une lumière bleue de manière extrêmement précise, et ils utiliseraient du Quantum Dot par-dessus. Ce qui permettrait de moduler ensuite la lumière. C'est pas très 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 clair pourquoi, en tout cas dans mon esprit, pourquoi ça serait meilleur que les deux,
C'est
en
la
tout
question
cas
que j'allais te
que.
poser, c'était quel est l'objectif visé d'utiliser, de marier
L'objectif
les deux?
visé, ouais, l'objectif visé, c'est globalement d'avoir une image meilleure tout en ayant une meilleure luminosité. C'est toujours le problème, tu sais,
Bien
les
sûr,
QLED
ouais.
ont une bonne luminosité, mais une image un peu moins bonne que les OLED, qui ont une excellente image, mais qui ont une luminosité qui est toujours un peu limitée. Donc on est toujours dans ce truc-là, et le QLED, enfin le Quantum Dot OLED, on va y arriver, hein, je sais même pas comment ils vont l'appeler, ce sera une solution pour essayer de marier un petit peu les deux mondes, et d'avoir un petit peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire une image un petit peu meilleure, avec un petit peu plus de luminosité, donc voilà, de supprimer un petit peu les problèmes, quoi, les problèmes des trucs. Il y a eu un bip.
Oui, c'est mon
Ah
lave-vaisselle
pardon,
qui se met
désolé,
en
désolé.
route parce qu'en général, nos enregistrements sont terminés à 23h53. Mais en
Désolé.
l'occurrence, on a nos raisons qui font que ça déborde. C'est pour vous proposer plus de
Suis
contenu, donc
désolé.
peut-être vous entendrez. Non, bah c'est moi surtout. On aurait dû programmer le lave-vaisselle plus tard. C'est pas très très grave. En tout cas, très bien. Bah, écoute, on verra ce que ça donne. On est de l'ordre de la recherche quand même là. On n'est pas sûr de la news, de
Complètement,
quoi que ce
oui,
soit.
non, pour l'instant on n'est pas encore sur un produit, mais voilà, c'est peut-être la prochaine génération des télévisions Samsung qui seront équipées en QD OLED, du coup.
Peut-être qu'on en verra plus des infos, notamment au CIS ou allez savoir dans d'autres salons. Dans la rubrique politique qui fait gratter la tête, il y a un amendement qui a été déposé au projet de loi de finances 2019 et qui est actuellement discuté par les députés à l'Assemblée nationale. Et c'est une nouvelle initiative qui vise à embêter ce géant Amazon, notamment en proposant ni plus ni moins que de taxer d'un euro la livraison d'un colis à domicile. L'idée, et c'est porté par l'Association des maires de France, c'est de contrebalancer l'attaque qui peut être faite par Amazon, selon eux, au commerce de proximité, en recueillant donc des recettes de cette taxe. Et évidemment, nous qui sommes évidemment peut-être consommateurs d'Amazon, mais surtout qui prenons les choses avec un petit peu de recul sur ces sujets-là, on ne peut pas s'empêcher de se dire, mais est-ce que finalement ça risque pas de desservir l'avantage que représente le fait de se faire livrer des colis à distance, notamment quand on est un petit peu coupé de magasins et quand on est dans des environnements où on a un petit peu plus de route à faire? Est-ce que c'est vraiment une solution de taxer comme ça un euro tout le monde? Et le débat de fond qui remonte, c'est toujours un sujet sur lequel je réfléchis et dont on m'avait amené des éléments de réflexion particulièrement intéressants, c'est que finalement l'idée de fond, c'est notamment de protéger, vous savez, les petits libraires face à ce géant Amazon. Et c'est vrai que la réflexion notamment portée par Bertrand Soulier m'avait amené à explorer le fait que c'était vraisemblablement pas tant Amazon qui était responsable d'une grande désertification des libraires, que je conteste pas, hein, mais peut-être plutôt tous ces espaces de centres commerciaux, les Auchan, Leclerc, Culture, Cultura et compagnie, qui ont pu, dans une bien plus grande mesure, embêter finalement les libraires. Donc, tout ça remis en perspective, je me demande si on tape sur le bon ennemi et je me demande si on tape de la bonne manière pour essayer de protéger ces commerces de proximité. T'en penses quoi, toi, Guillaume, de cet amendement?
Moi, j'ai pas trop d'avis parce que j'ai pas trop de données en fait. Je sais parce que tu vois ce que tu dis, c'est intéressant. C'est-à-dire, qui est l'ennemi? Est-ce
ouais,
que
c'est,
c'est vraiment la grande distribution? Est-ce que c'est vraiment Amazon? Est-ce que c'est vraiment le commerce sur Internet? J'aimerais bien le savoir. Justement, tu vois, j'aimerais bien qu'on quantifie un petit peu ces trucs-là pour avoir des données pour savoir si oui ou non c'est pertinent de canaliser de l'argent sur les commandes d'Amazon pour les réinjecter pour faire des abattements, puisque c'est ça le truc, hein, faire des abattements sur les taxes foncières des petits commerces. Moi, j'ai rien contre les petits commerces, hein, je suis content d'avoir des petites librairies, je suis content d'avoir des petits commerces de proximité, si tu veux, donc j'ai au contraire, tu vois, ça me ferait, ça m'emmerderait que tout le monde disparaisse, quoi, tu vois, et qu'il n'y ait plus que Amazon ou des grandes de la grande distribution, par exemple. Seulement, j'aimerais bien savoir comment efficacement, si tu veux, les faire survivre, quoi. Et en fait, je ne me prononce pas parce que je n'ai pas vraiment de données. Je ne sais pas dans quelle proportion Amazon est le problème, ou dans quelle proportion Auchan est le problème, ou dans quelle proportion il y a un autre problème encore, tu vois. Donc, je suis très partagé parce que, je te dis, je manque des données là-dessus.
Un sujet qu'il faudra qu'on creuse. On enchaîne avec une petite rubrique jeux vidéo, du coup. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé de jeux vidéo, on va se rattraper un petit peu. Tu vas commencer à parler de l'objet qui représente peut-être le mieux les jeux vidéo, c'est les manettes.
Oui, il y a
et
des manettes.
C'était moi qui avais mis cette news, non?
Oui, tout à fait, mais bon.
Vas-y,
tu peux en parler, vas-y, il n'y a pas de souci.
Non, effectivement, c'était. Alors, je vais la reprendre, quitte à faire un montage. Et on enchaîne pour parler un petit peu dans cette rubrique en bref de jeux vidéo avec une initiative de Microsoft que j'ai trouvé plutôt cool, même si c'est sans doute pas la première du genre, qui serait en train de bosser sur un concept de manette qui s'adapterait sur les tablettes, les smartphones et sur différents écrans pour transformer du coup votre interface habituellement tactile en manette / console de jeu portable. Et ce que je trouve assez cool, c'est de le mettre en perspective d'un service hypothétique à ce stade, mais qui devrait arriver de cloud gaming de Microsoft, et surtout d'une tendance de manière générale de voir arriver, je pense peut-être de plus en plus de manière pressante, le jeu diffusé en cloud. Donc l'idée, c'est que Le calcul du jeu vidéo ne se fait plus sur l'appareil que vous avez entre les mains ou sous les yeux, mais se fait à distance sur des serveurs et vous est renvoyé juste l'image qui est calculée, vous renvoyez les commandes que vous envoyez sur la manette. Et je trouve ça assez cool que Microsoft planche sur ces projets et représente peut-être ce qui sera le standard du jeu demain pour le meilleur et pour le pire. Je sais que tu as des réserves, toi, quant au cloud gaming, pour les travers que ça pourrait occasionner, évidemment.
Bah, toujours, oui, bah, oui c'est la dématérialisation ultime, hein, de toute façon, le cloud gaming. Bon, après, je veux dire, c'est pas si grave que ça, hein. Il y a plein de trucs, il y a plein de moments où c'est vrai que c'est très pratique de pouvoir jouer sur n'importe quelle machine, tu vois, ta tablette, ton téléphone, ta télé, éventuellement même, va savoir, tu peux même jouer sur ta télé. Donc oui, c'est assez intéressant, et c'est vrai que cette manette, bah oui, c'est des trucs qui sont plutôt bien pensés, même si c'est pas très nouveau, hein, des manettes pour smartphone.
C'est ça.
Mais ce qui est intéressant, ce serait probablement d'avoir un truc unifié, quoi. C'est-à-dire que tous les jeux Xbox seraient compatibles avec cette manette d'une manière... Je suis désolé.
C'est dans la vaisselle qui s'est mis en route.
Non, c'est mon horloge. Et donc, comme il est minuit, bah, elle passe les jours et donc elle fait du bruit quand elle
passe
les jours.
On n'est plus habitué.
Je suis désolé. Donc bon voilà, oui donc effectivement, oui donc cette manette, ce qui est intéressant effectivement, c'est que tous les jeux auront le même setup, quoi. Ils seront pleinement compatibles avec la manette. Et c'est vrai que quand on joue sur des trucs tactiles, en général le problème c'est qu'on se retrouve avec des trucs qui changent, des manettes qui sont pas toujours compatibles, voilà. Donc là ce serait propre. Donc pourquoi pas, ce serait pas mal.
Ce serait chouette que en tout cas les grands acteurs de l'industrie du jeu vidéo s'emparent de ce sujet, du coup, c'est clair. Et puis allez, jeux vidéo quand même, hein, façon quelque part coup de cœur et prêt bonus, puisque c'était la BlizzCon. Alors je trouve que, en tout cas dans mon cœur, les principaux éditeurs de jeux vidéo, y en a un qui sort, je trouve, du lot de par sa patte de direction artistique, de par son passé, de par les propositions qu'ils font, c'est Blizzard. Est-ce que tu as suivi les annonces Blizzard? Moi je les ai suivies d'un petit peu loin, et peut-être que tu es mieux placé pour les lister si tu as bien suivi, non, les annonces de la BlizzCon?
Oui, bah plus ou moins. Ouais. J'ai vu surtout Diablo Immortal, le jeu mobile. Donc ouais. C'est Diablo qui revient. Donc ce sera un épisode complètement original entre Diablo 2 et Diablo 3, avec une interface adaptée au tactile. Un truc qui apparemment sera assez costaud, quoi, assez profond. Un Diablo, on va dire. Je connais pas. Je sais pas si c'est connu à l'heure où je parle le modèle économique de ce Diablo.
J'ai pas relevé, non. Mais à mon avis, ce sera un truc. Remarque. Oui, c'est intéressant que tu poses la question puisqu'ils sont déjà avec Hearthstone sur les appareils mobiles, qui est un modèle de freemium, donc qui est gratuit, et évidemment vous pouvez passer à la caisse pour télécharger, acheter des paquets de cartes en plus, comme tout bon jeu de cartes à jouer et à collectionner. Mais effectivement, moi Diablo, j'étais parti plus du principe que ce serait un jeu à acheter, mais peut-être. Je me trompe complètement.
Hein. Ils ont tout. Hein. Ils ont WoW qui est un abonnement, ils ont Hearthstone qui est du premium, ils ont Overwatch qui est donc un truc à acheter. Donc je sais pas, je ne plancherai pas.
Enfin, Overwatch qui n'est pas sur mobile.
N'est pas sur mobile, effectivement. Ouais. Donc oui, donc, bon, c'est vrai que moi je verrais bien un truc style freemium ou style free-to-play, honnêtement. Mais bon, en tout cas, c'est sympa. Enfin, c'est vrai que Diablo, c'est quand même toujours sympa. Hein. On s'y laisse toujours prendre, c'est assez sympa.
Ça défoule,
comme jeu,
quoi.
De toute façon, et c'est vrai que je suis sûr que ça fera un carton. Je prends des risques en disant ça. Diablo Immortal fera un carton.
Tu sais quoi? Je sais pas si ça va faire un carton.
Tu crois? Oui. Bah,
non, mais franchement, j'en sais rien parce que. Ah oui, d'accord, il y a les aspects peut-être réseau qui peuvent être très intéressants, effectivement. Ok, j'ai rien dit, ça va faire un carton.
Écoute, ils ont annoncé Warcraft 3 aussi, le remake, d'un remaster même plus exactement de Warcraft 3. Donc ce sera entre le remake et le remaster, ils disent. Hein, donc c'est quand même, pour ceux qui ont aimé Warcraft 3, ce sera pour 2019. Pas énormément de détails, il y aura son extension évidemment inclus dedans. C'est assez rigolo parce que la vidéo de présentation, c'est vraiment Warcraft 3 comme tu te souviens que c'était.
Ouais.
Sauf
ouais.
que c'était pas comme ça en vrai, tu vois, évidemment, ouais. C'était beaucoup moins joli. Mais toi, tu t'en souviens comme ça, c'est plutôt pas mal. Et bon, il y a un truc qui a dû faire quand même battre ton cœur, toi qui m'as parlé il y a pas très longtemps de la version classique de World of Warcraft, puisqu'elle arrive en 2019, la version Vanilla revient.
C'est fou ça. Ouais, c'est fou. J'aurais pas pensé qu'il le proposerait effectivement. Alors j'ai pas non plus regardé la vidéo en entier, hein, puisqu'il y a une grosse démo du jeu en tant que tel. En fait, autant je comprends qu'on puisse avoir envie de capitaliser sur la mémoire de World of Warcraft, des jeux en général pour y jouer, autant le fait que Blizzard le propose, ça m'a paru vraiment bizarre. Et au fond, j'aurais pas envie de jouer à ça avec Blizzard, paradoxalement. Je sais pas comment t'expliquer le sentiment que ça a créé en moi, mais ça me donne pas envie du tout. Bon, déjà, de manière générale, World of Warcraft ne me donne plus envie, non pas parce que le jeu est pas bien, parce que franchement, j'ai d'excellents souvenirs de World of Warcraft et je me suis éclaté dessus, mais c'est juste parce que aujourd'hui c'est incompatible avec une vie décemment humaine, avec du temps à passer avec des vrais humains, et que moi je ne peux plus faire ça, donc ça ne me donne même plus envie. Mais je sais même pas si j'aurais envie, tu vois, si je devais refaire du World of Warcraft, je préférerais jouer aux dernières extensions, avec tous les enjeux qu'il peut y avoir, et certainement pas à revenir à du classique. Donc je sais pas.
Surtout que bon, enfin, à chaque extension, ils ont un petit peu plus ouvert et l'ont rendu un petit peu plus accessible, je
Oui,
pense, hein,
oui.
pour les nouveaux arrivants, pour que les nouveaux arrivants ne soient pas complètement largués. Donc, je pense que, en plus, graphiquement, il a été un petit peu amélioré. Bon, je pense que la version remasterise, enfin,
Il y aura
le
il y aura
classique,
une refonte quand
oui,
même, hein, sur
je
le plan
pense que le
graphique.
classique sera un peu refondu quand même. Cela dit, ça, à mon avis, ça va être un petit peu rugueux comme il y a 15 ans, hein,
Ah oui,
au
c'est
début. Hein,
ça. J'aime ton adjectif de rugueux, effectivement. Ouais.
Bon, bah écoute, sinon t'as vu autre chose qui
Et
t'avait
il y avait
intéressé?
Overwatch, évidemment, pour ceux
Overwatch?
qui
Moi
aiment Overwatch,
j'ai
j'ai
jamais
jamais
essayé
eu l'occasion de
Overwatch
tester non
encore.
plus. Je sais que ça plaît beaucoup et que c'est
Oui.
un sacré kiff à jouer, et je n'en doute pas une seule seconde, mais voilà, il y a un nouveau personnage qui arrive dans Overwatch. On enchaîne avec les bonus. Guillaume, qu'as-tu emmené dans ta besace pour les bonus de ce 105e épisode de Tech Café?
Eh bien, j'ai attendu que Léo s'en aille pour proposer une chaîne YouTube.
Il t'écoute.
J'espère. Oui, non, c'est la chaîne YouTube de Gorkab qui s'appelle CGM. C'est donc une chaîne qui traite de l'image de synthèse au cinéma, des origines à nos jours. Voilà, donc à chaque fois, c'est une vidéo qui s'intéresse à donc soit un film, soit un créateur. Enfin, donc souvent, c'est un film. Hein. Et donc, ça retrace les origines, mais vraiment, parfois, il y a des raretés, quoi. Il y a même des exclus, je pense. Ils parlent de films qui sont pratiquement inconnus, mais qui ont été précurseurs. Voilà, parfois, c'est des films obscurs, parfois, c'est des films connus, ça dépend. C'est vraiment intéressant, hein. Ça peut être Matrix, mais ça peut être aussi des trucs un petit peu moins connus, comme Monde Ouest. Et voilà, donc, si vous aimez le cinéma, si vous êtes intéressé par les effets spéciaux et les images de synthèse, je pense que c'est assez nécessaire, quoi. Donc, CGM.
C'est marrant que tu cites ça, parce que je suis tombé hier sur une vidéo sur YouTube qui faisait 25 minutes. Donc je me suis dit, ouais, c'est bon, ça va me saouler au bout de quelques minutes. C'était sur du cinéma et ça parlait de Jurassic Park. Et en gros, c'est une vidéo qui expliquait pourquoi Jurassic Park est un film génial. Et en fait, je me suis fait surprendre et j'ai dévoré la vidéo jusqu'au bout, parce qu'effectivement, les clés de lecture qui sont données dans la vidéo sur YouTube m'ont amené à voir Jurassic Park d'une manière totalement différente. Et je n'avais pas réalisé que Jurassic Park, c'était peut-être un des premiers films où il y avait des animaux en images de synthèse de manière aussi importante. Et d'ailleurs, il détaille cet aspect-là, donc c'est rigolo, ça fait écho, je pense, avec ce que tu décris. Je sais pas s'il y a une vidéo sur la chaîne YouTube que tu cites qui parle de Jurassic Park, mais ce serait compréhensible, disons.
Oui. Mais tu devrais aller voir. À mon avis, ça va t'intéresser, de toute
Je
façon.
vais m'abonner et puis ça fera partie des nombreuses chaînes YouTube qui me pourrissent mon temps et qui me
Ouais,
passionnent
désolé.
malgré tout.
En plus,
Oh,
c'est
c'est
vrai que
pas de ta faute, c'est de la faute de
c'est un petit
YouTube et
peu
de la
long.
mienne. Bah écoute, moi ce sera un bonus très 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 simple, puisque je suis tombé sur une promo là chez Auchan ce week-end. Je donne les détails de ma vie perso, hein, mais sur Mario Party sur Switch, qui était à un prix hyper intéressant, je trouvais, pour ce jeu qui est juste sorti, un peu plus de 40 euros. Voilà, c'est juste qu'on a fait quelques parties, on a testé. Moi, j'avais joué à Mario Party sur la Wii, et j'y jouais à l'époque, on y jouait à deux, et maintenant, bah, on peut y jouer à trois avec mon fils. Et bah, il adore, on adore, enfin, c'est relativement simple. Je ne sais pas quelle est la durée de vie comme ça au niveau d'une famille de ce type de jeu, mais force est de constater que la recette marche toujours aussi bien, que ce soit en famille d'ailleurs ou avec des amis. À noter qu'il y a, j'ai testé deux modes de jeu. Il y a le mode de jeu façon plateau, tu sais, où on lance le dé et puis en fonction des cases où on arrive, il y a différents événements, il y a des mini-jeux, mais il y a aussi un autre mode de jeu qu'on a essayé. Grosso modo, tout le monde est sur le même bateau pour faire du rafting et tu dois faire différentes épreuves qui sont toutes coopératives, et plus tu remplis les mini-jeux, plus tu gagnes du temps et plus tu peux continuer à faire ton parcours en rafting. J'ai trouvé ça super malin et la recette fonctionne diablement bien quand on est en famille comme ça et qu'on veut jouer avec des enfants. Je trouve que quand même la Switch est un modèle, comme beaucoup de consoles Nintendo, de jeux en participation comme ça, et Mario Party est sacrément bien fait. Donc voilà, je continuerai à faire mon test éprouvé en famille de ce jeu pour vous en reparler le cas échéant, mais j'avoue que c'était une jolie satisfaction qu'on a eue. Un petit mot avant aussi de faire les rappels pour vous dire où est-ce qu'on peut nous suivre sur Internet. Juste pour relayer le message privé, le pauvre, il s'est retrouvé au fin fond des notes de l'émission de notre conducteur. C'est Kevin Poirot qui nous disait « Bonsoir » par message privé sur Twitter. Juste une petite rectification sur le dernier épisode. Nick Clegg n'était pas du Labour, mais des libéraux démocrates, Lib Dem. Au plaisir d'écouter le prochain épisode. Et je faisais ce relais parce que ce n'est pas le seul à avoir fait cette petite correction, et j'aime beaucoup parce que c'est la preuve qu'une fois de plus on est écouté, donc ça c'est très très cool.
C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, tu as raison, j'avais aussi eu la remarque sur Telegram et j'ai oublié la dernière fois d'en parler, parce que je crois que j'aurais pu en parler la dernière fois, mais ça m'a échappé.
La correction a été transmise comme ça. Et surtout, n'hésitez pas, je pense qu'il ne faut vraiment pas se cacher derrière des approximations ou des erreurs qu'on pourrait faire. Moi, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de conneries que je raconte, mais je préfère raconter des conneries et qu'on me corrige plutôt que de rester dans mes certitudes. Donc surtout, n'hésitez pas à me corriger. Et pour ça, vous savez, les moyens, je les ai rappelés au début de l'émission, c'est sur telcafé.fr ou sur Telegram. Et bien entendu, continuez à nous soutenir sur patreon.com/techcafé. Guillaume Poggiaspala, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet si on veut converser avec toi, si on veut te retrouver?
Si on veut me retrouver, ce sera peut-être sur Telegram, mais surtout sur Tech Café.
Ah, merci Guillaume de ta fidélité, merci d'être présent dans Tech Café. Et pour ma part, c'est Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur mon site, sur guillaumevendée.fr ou sur les réseaux sociaux, partout où vous tapez Guillaume Vendée, vous devriez avoir un résultat qui correspond peu ou prou à un de mes comptes, et notamment si vous voyez toujours le même visage, ce serait un bon indicateur pour vous dire que c'est la même personne et que c'est moi. Merci beaucoup de votre fidélité, merci beaucoup de nous écouter émission après émission, merci aussi de vos avis sur Tech Café, notamment sur les magasins de podcasts tels que Podcast sur iOS ou les autres apps que vous pouvez trouver sur Android, partout où vous pouvez voter. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de Tech Café et n'oubliez pas non plus de partager cette émission à votre entourage. De notre côté, on se dit rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de Tech Café ou un hors-série qui vous donnerait des infos passionnantes sur comment utiliser la tech dans des conditions extrêmes. Quel teasing de fou. À très bientôt dans Tech Café. Ciao à tous.
Ciao à tous.